Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti !
La loi les reconnaît à moitié et pourtant elles sont là et depuis longtemps, ce sont les mères lesbiennes. Pour cet épisode, on se penche avec Anne-Laure sur la daronie des lesbiennes, dite matergouinité dans le jargon. Salut, bienvenue.
Coucou.
Et surtout, bienvenue à la petite Suzanne, donc l'enfant d'Anne-Laure, le premier bébé quad meuf.
Yeah.
Ouais.
Il est né le divin enfant.
Bah déjà, gros big up aux militantes de l'Ibis Batignolles qui ont enfin obtenu gain de cause après 22 mois de grève. Et c'est vraiment une leçon de lutte, une leçon d'organisation de la lutte aussi. Il y avait eu des caisses de grève, un financement participatif pour accompagner ces femmes de chambre. Et franchement, elles sont trop fortes, on est trop heureuses de cette victoire.
Et c'est sans oublier un 43e féminicide, de nouveaux témoignages accablants contre Patrick Poivre d'Arvor, ainsi qu'un backlash contre la candidate Audrey Pulvar à la veille des régionales. Alors pour entrer dans le vif du sujet, être deux femmes et élever des enfants, ça existe depuis toujours, mais même en 2021, ça reste un défi, car il s'agit de faire sa place entre de multiples injonctions, de faire le tri entre mille pressions. Fait-on un enfant pour entrer dans le rang? Comment fait-on un enfant? A-t-on simplement les moyens de le faire? Est-il possible de gérer la montagne administrative? Comment bien expliquer les choses? Y a-t-il une responsabilité additionnelle à faire ce choix-là quand on est deux femmes? Quel regard notre communauté, mais aussi le monde hostile, porteront-ils sur nous? Bref, on a voulu faire cet épisode autour de la condition très particulière des mères lesbiennes et de leurs enfants, donc sur ce qu'on appelle aujourd'hui la matergouinité.
Bah déjà, comme tu l'as bien dit, les femmes élèvent des enfants depuis toujours, c'est une histoire vieille comme le monde, qu'elles élèvent des enfants parce qu'elles sont en couple, ou pas d'ailleurs. Déjà, il convient de rappeler que la procréation, c'est une question centrale dans la pensée lesbienne. On peut citer, bien sûr, Monique Wittig, la féministe matérialiste radicale et fondatrice des Gouines Rouges. Les Gouines Rouges, pour rappel, c'était les lesbiennes qui avaient été dégagées du MLF et du Phare. Elle explique dans son ouvrage La pensée straight que les lesbiennes ne sont pas des femmes. C'est-à-dire qu'elles se sont extraites du rapport de classe hétéropatriarcale. Elles se sont extraites de l'injonction à exister par rapport aux hommes par et pour les hommes, elles n'ont pas pour mission donc de faire des enfants à des hommes. Et beaucoup de lesbiennes aujourd'hui, et hier d'ailleurs, sont héritières de cette pensée et restent convaincues que la maternité n'est pas leur place, que c'est le symbole de l'asservissement du corps féminin pour la marche du monde capitaliste, donc le corps qui crée de nouveaux consommateurs. Et aussi, elles sont convaincues que le fait de devenir une famille au sens normatif du terme est problématique, et parce qu'il renvoie à la structure familiale qui a élevé ces femmes et qui a potentiellement les a rejetées.
Oui, mais alors depuis toujours, les femmes ont fait des enfants entre elles, en réussissant à se faire une place parfois très précaire dans le droit familial. Jusqu'à récemment, le notaire ou les huissiers venaient au secours d'un vide juridique, puisqu'en face, on proclamait un danger pour la société. Et depuis toujours, contrairement à ce que les antis continuent à dénoncer, les lesbiennes se sont réappropriées l'injonction venue d'ailleurs de la représentation masculine dans la vie de l'enfant, voire même pour certaines, de l'accès aux origines. D'ailleurs, les familles homoparentales, on le sait, sont scrutées depuis plus de 50 ans. D'ailleurs, on recense plus de 700 études scientifiques sur le sujet. Et sans surprise, l'écrasante majorité d'entre elles tirent les mêmes conclusions, c'est-à-dire que les enfants d'homo vont aussi bien ou aussi mal, je ne sais pas, que les autres enfants.
C'est un peu violent parce qu'il faut se justifier et dire qu'on a fait les choses d'une autre manière, pas forcément, qui n'existe pas en France. Donc, il y a ce sentiment de devoir un petit peu se justifier. De ce que j'en vois de mes enfants, c'est les mêmes que les autres. Et ces enfants sont là, ils existent. Ils existent et ils existeront toujours, ils existent depuis longtemps. Donc c'est vrai que c'est faut cadrer les choses quoi.
Bon, sans surprise, c'est aux États-Unis qu'on trouve les premières initiatives faites pour accompagner les familles homoparentales. En 1971, à San Francisco, le Lesbian Mothers Union a été créé pour les activistes, par et pour les activistes. Le but était d'aider les femmes à gagner la garde de leurs enfants contre les pères, donc des femmes qui, par exemple, ont une vie hétéro et qui ensuite rencontrent une femme et qui perdent la garde puisqu'on considère que l'homosexualité est problématique pour élever des enfants. À Seattle, en 74, des femmes ont créé le Lesbian Mothers National Defense Fund, un peu de la même façon pour payer les frais d'avocat, toujours dans ces histoires de garde. Il y a d'ailleurs un documentaire qui a été fait sur cette période-là, ça s'appelle Mom's Apple Pie.
All I did was cry through the whole court. I cried because it didn't matter what I said. And I didn't have an attorney. I couldn't find an attorney to legally represent me at the time. I thought that I could go to court and tell the judge, look, he's dealing drugs. My kids are safer in my household. And they just ignored that part.
On parlait tout à l'heure de San Francisco, c'est dans l'Eldorado californien qu'on a trouvé la première banque de sperme qui a proposé ses services aux femmes lesbiennes et célibataires. C'était en 1982, donc il y a 1000 ans. En France, justement, c'est dans les années 80 que la première association s'est créée, c'est l'APGL, l'Association des parents gays et lesbiens. Elle existe depuis 86, et depuis 86, elle fait un très très gros taf pour accompagner les parents et futurs parents, pour les mettre en réseau et pour les accompagner juridiquement et même dans la démarche de parentalité. À ce sujet-là, on peut voir le documentaire d'Émilie Jouvet, « Mon enfant, ma bataille », qui rappelle tout cet historique, qui est absolument passionnant.
Mais ne serait-ce que clandestin, quoi. Ouais. C'est, ouais. On part, on dit rien, enfin, nos employeurs, il faut gruger un peu...
Toutes les démarches, les monitorings, les échos, les machins, des fois tu prends rendez-vous, on te demande pourquoi. C'est pas facile, t'es pas accompagné, t'es pas soutenu, tu te débrouilles quoi, tu triches en fait.
Un enfant qui naît dans un couple hétéro-marié, l'enfant, il est reconnu par ses parents.
Justement, à propos des débuts de cette homoparentalité, il y a un podcast américain qui s'appelle If These Ovaries Could Talk, qui invite des mères lesbiennes plus âgées, donc qui racontent leur histoire avec leurs enfants. Et donc, à l'époque, pour elles, il fallait absolument passer devant une assistante sociale. Et donc, les lesbiennes se préparaient très bien à cet entretien-là. On leur a également dit que, avant d'avoir un enfant, il fallait trois choses. Un lave-linge, une carte de fidélité au restaurant chinois et un bon avocat. Évidemment, quand elles sont allées à l'hôpital accoucher, les sages-femmes pensaient que l'enfant allait être proposé à l'adoption. Et donc, la deuxième mère devait entrer subrepticement à la maternité, limite par le local à poubelle, pour rendre visite à sa compagne. Enfin, voilà, elles ont tout un tas d'anecdotes à raconter qui sont intéressantes et je vous conseille d'écouter ce podcast.
Et des anecdotes qui semblent tout à fait réalistes avec le monde d'aujourd'hui en France, par ailleurs. Et on en parlera plus tard. La loi, eh bien, c'est facile. Elle a évolué que très récemment, en tout cas en France. Déjà, on peut faire un petit point de contexte. Grâce au mouvement féministe des années 60 et 70, il y a eu une vraie diversification des normes familiales, de nouvelles propositions de famille, en gros, puisque plus de divorces, puisque des familles recomposées. Donc, les familles monoparentales recomposées sont devenues un peu plus normal, entre guillemets. Et ça a pu permettre aux nouvelles familles, et dont les familles homoparentales, de se faire une petite place. Mais c'est vraiment en 2013 qu'il y a eu une partie de la révolution. Donc, pour rappel, le PACS qui a été créé en 1999 n'ouvrait pas de droit à l'adoption, mais c'est bien la loi 2013, la loi dite Taubira, qui a permis aux nouvelles épousées, aux nouveaux épousés, d'adopter l'enfant de leur conjoint. Donc, c'est pas vraiment une autorisation aux familles homoparentales comme ce fut le cas, comme c'est le cas pour les hétéros. C'est pas la même facilité à devenir parent, mais en tout cas, c'est une nouvelle fenêtre pour le devenir et quelque chose de relativement révolutionnaire. D'ailleurs, on le voit dans le documentaire de la PGL, hein, ça a été vécu comme un énorme soulagement par les parents qui avaient déjà des enfants et par ceux qui se préparaient à en avoir. Ce qui est complètement hypocrite dans cette loi de 2013, c'est d'abord que ça implique que pour devenir parent, pour avoir le droit d'adopter son enfant, il faut être marié. Donc, en France, on oblige les gays et les lesbiennes à se marier pour faire des enfants, ce qui est quand même un petit peu fort de café. Et la deuxième hypocrisie, bien sûr, c'est le fait que la PMA a été enlevée de la loi première, alors qu'elle devait d'abord figurer dans la loi en 2013. On se souvient des justifications de François Hollande en disant, limite, qu'on pouvait pas tout faire d'un coup. Bref. Et des collectifs s'étaient créés à ce moment-là pour justement se battre pour que la PMA ne soit pas abandonnée. On se souvient par exemple du collectif Oui, 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 auquel appartenait par exemple Alice Coffin. On peut donc se souvenir de tout ça, du fait que c'est si récent. Concernant les fameuses tergiversations qui ont toujours lieu aujourd'hui sur la PMA, on peut dire qu'à l'heure actuelle, la loi n'est toujours pas votée, que c'est un peu l'arlésienne de la présidence Macron. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, le gouvernement actuel, mais aussi les gouvernements précédents, ont mis tellement de temps à travailler sur la PMA pour toutes, parce que ce n'est pas un sujet anodin. Il y a une tentative de réguler un petit peu la maternité des lesbiennes. On va pas les laisser faire ce qu'elles veulent, quand même. Donc, toutes les réécritures dans les passages des navettes parlementaires, on le voit bien. Hein. Est-ce qu'on va leur autoriser le remboursement de la PMA ou pas? Sous-entendu, est-ce que c'est une PMA nécessaire ou pas, hein, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que on va leur imposer un donneur connu ou pas connu? Ça, il faut savoir que cette question n'avait pas jusqu'alors été posée quand il s'agissait de PMA pour les personnes hétéros. Voilà, il y a ce genre de questions. Il y avait même eu un moment là, est-ce qu'il faut mettre dans l'état civil la mention que l'enfant est né d'une PMA? Bon, évidemment, ça c'est passé très vite puisque c'est complètement anticonstitutionnel. En gros, pourquoi la loi met-elle tant de temps à être votée? J'ai tendance à penser que c'est parce qu'il s'agit de femmes qui font des enfants sans modèle paternel, des femmes, qu'elles soient lesbiennes ou non, qui décident de faire des enfants sans modèle paternel. Et ça, quand même, pour les législateurs, c'est peut-être un petit peu fort... Fort de café.
En France, hein, toujours, c'est cette adoption la nuit dernière du projet de loi de bioéthique. Le Sénat, majorité de droite, a donné son feu vert au texte, un texte amputé hein, toutefois de sa mesure emblématique, à savoir l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Un texte complètement dénaturé selon la gauche et les groupes RDPI et RDSE. Seuls les élus de droite ont validé donc le projet à main levée. Privé de l'ouverture de la PMA, le texte a également perdu un autre de ses piliers, la possibilité pour les femmes d'une autoconservation de leurs ovocytes sans raison médicale.
Alors les arguments des anti sont multiples et l'argument le plus fou, c'est le risque que l'ouverture de la PMA à d'autres femmes que les hétéros en couple vide les sécos. Donc les sécos, c'est les centres où sont recueillis les gamètes. Par ailleurs, des centres où il y a déjà des pénuries, hein, donc ça ne va pas être la faute des femmes lesbiennes, ça c'est une autre question. Une réponse qui a fait chaud au cœur a été trouvée par des militants gays qui ont publié une tribune dans le Huffington Post en 2019 en écrivant « Nous, gays et bisexuels, acceptons de donner notre sperme en solidarité de nos sœurs lesbiennes et célibataires ». Trop sympa.
Ouais, et puis surtout hyper émouvant. Ils font d'ailleurs référence au fait que les lesbiennes ont accompagné les gays pendant l'épidémie du sida et que c'est un peu retendre la main à nouveau. Donc en gros, si on part du principe que Emmanuel Macron est sincère, on pourrait se dire que bientôt il sera possible de faire sa PMA en bas de chez soi, dans son hôpital de référence, enfin quelque chose qui est assez fou. Mais bon, les récentes années nous ont quand même appris à modérer notre enthousiasme et à ne pas compter sur la Saint-Glinglin ou l'avenir proche pour commencer à faire des enfants en fait, puisque contrairement à ce que peut penser Olivier Véran, qui avait dit que les premiers enfants pourraient naître à la fin de l'année 2021, ça met du temps en fait de faire un enfant par PMA quand on est lesbienne. Alors en gros, comment fait-on aujourd'hui pour faire des enfants? La première chose, c'est souvent partir à l'étranger. On a relativement l'embarras du choix. Il y a le Danemark et le Royaume-Uni où on peut avoir des donneurs non anonymes. L'Espagne qui propose des services, puisque c'est comme ça que c'est vendu, avec des traitements hormonaux qui assurent un certain pourcentage de réussite. Il y a la Belgique qui a prouvé son efficacité. Combien d'enfants sont nés grâce à la Belgique en France? J'aimerais bien connaître ce chiffre, mais c'est un chiffre noir. D'ailleurs, Maëlle Lecor en parle très bien dans son livre « La PMA pour les nuls » de ses territoire-là. Donc, l'un des principaux problèmes du fait que la PMA n'est pas ouverte aux lesbiennes en France, c'est que ça implique d'énormes moyens financiers, en fait, pour faire cette procédure à l'étranger. Ça implique des voyages, ça implique aussi des frais. La moyenne, enfin, on a établi une moyenne à peu près de 10 000 euros pour une grossesse réussie. Et il y a aussi des moyens matériels qui ne se trouvent pas sous le sabot d'un cheval. Par exemple, il faut pouvoir se libérer du jour au lendemain quand on a un test d'ovulation qui arrive. Il faut que le couple puisse réserver un billet d'avion tout de suite pour partir. C'est quand même la tannée.
Oui, c'est très contraignant. Alors, autre option, c'est l'adoption. Alors, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire une PMA à l'étranger, soit parce qu'elles se reconnaissent dans d'autres projets. Les lesbiennes peuvent choisir l'adoption d'un enfant qu'elles fréquentent déjà, par exemple celui d'une partenaire qui a eu une vie hétérosexuelle auparavant, ou bien d'un enfant inconnu, donc pupille de l'État ou enfant né à l'étranger. Le problème, puisqu'évidemment c'est pas si simple, c'est que dans le deuxième cas, ils s'exposent à de nombreux obstacles. Pour les pupilles, les conseils de famille décisionnaires ne peuvent confier des enfants à des couples lesbiens et gays que depuis 2013, et évidemment, ils le font très rarement. Pour les enfants nés à l'étranger, il y a encore beaucoup de pays qui refusent de confier des enfants aux familles lesbiennes et gays, sauf pour certains cas exceptionnels, comme les fratries d'enfants déjà grands, les enfants en situation de handicap ou les adolescents. On voit que l'adoption n'est quand même pas accessible à tout le monde en France, ce n'est pas une surprise. De toute façon, la nature est construite avec le modèle de la filiation biologique, mais la culture, elle, depuis longtemps, a déconstruit ce lien et invité le lien affectif ou social dans la filiation. C'est pour ça que l'adoption, d'ailleurs, existe depuis Mathusalem. Hein. D'ailleurs, on peut rappeler qu'il y a toute une histoire de la GPA dans la Bible, quand tout le monde demande qui est la mère biologique. Voilà. Donc, comment avoir un lien légal? Bah, en fait, il faut adopter souvent son propre enfant. Et là, on entre dans les rouages ubuesques de l'administratif, puisque pour la mère qui n'a pas porté l'enfant, c'est-à-dire donc l'autre mère, donc la mère sociale, la naissance de l'enfant est souvent précédée de la préparation d'un dossier d'adoption assez conséquent qui va pouvoir être déposé des mois après la naissance, c'est souvent 6 mois après, au tribunal des affaires familiales. Après être passé chez le notaire, là où la mère accouchante déclare vouloir que son enfant soit adopté par son épouse. Encore une fois, il est recommandé d'adhérer à une association qui s'appelle Enfants d'Arc-en-Ciel, ça coûte que 25 euros, qui a de super ressources puisqu'il faut des attestations de l'entourage, du personnel médical, d'où l'importance d'être bien entouré, des photos attestant très mièvrement d'une grossesse partagée, avoir déclaré l'enfant à l'état civil en tant que seule déclarante, etc., etc. La liste est très longue. Voilà.
Le cauchemar, je suis en plein dedans. Et tout à l'heure, on parlait de la PMA en partant du principe que c'était la PMA avec donneur inconnu, mais il existe aussi d'autres façons de faire des enfants, en utilisant par exemple des donneurs ou des donneuses connues en insémination artisanale. On peut faire des inséminations artisanales avec des pénis, des cuillères, pipettes de doliprane, des seringues médicales ou même des godes inséminateurs, ça s'achète. Ou bien on peut aussi envisager de faire du co-parenting, donc c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes méthodes pour en gros mettre le spermatozoïde en contact avec l'ovule, mais avec un engagement parental de la part de la personne qui a les spermatozoïdes. Donc en gros, il existe moult façons de faire des bébés en utilisant la semence de quelqu'un que l'on connaît. Par contre, il y a des gros warnings. Déjà, pas mal de personnes cherchent sur internet en fait des donneurs potentiels. Je dis donneurs parce que c'est souvent aux gars qu'il faut faire attention. Au gars 6, parce que certains ont des gros kinks sur les lesbiennes, et donc ça, c'est faut quand même le savoir. Et d'autres aussi sont des personnes malveillantes, qui vont vouloir faire chanter les meufs une fois que le bébé sera né, par exemple, ou alors juste des personnes qui ont envie aussi d'empoisonner, éventuellement, des lesbiennes, parce qu'ils sont porteurs de maladies. Il faut aussi, bien sûr, se protéger au niveau de la santé. Donc, par exemple, vérifier le bilan sérologique du donneur ou de la donneuse avant de faire l'insémination. Donc, c'est quand même important. Éventuellement aussi de prendre des renseignements auprès des personnels de santé qui peuvent vous dire, quel matériel utiliser. Il faut pas utiliser des choses pas stériles, par exemple. Et aussi, il faut se protéger, se blinder du point de vue légal quand on choisit cette méthode-là, du donneur ou de la donneuse connue. L'avocate Caroline Mécari est spécialisée dans la défense des droits parentaux des lesbiennes et des gays, et elle en parle souvent dans ses livres. Quand elle aborde des affaires qu'elle a défendues, elle parle souvent du risque légal qu'encourent les femmes lesbiennes qui choisissent le don connu par défaut, en fait, souvent. C'est parce qu'elles n'ont pas accès à la PMA en France qu'elles sont obligées de passer par là, enfin pour beaucoup.
Cette académie de médecine est en décalage avec l'évolution de la société française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et depuis des décennies, la société française connaît de l'existence des familles monoparentales. Il y a 1,7 million de familles monoparentales, et parmi ces 1,7 million de familles monoparentales, il y a donc des enfants qui sont élevés par des femmes seules à 85%. Et que je sache, ces enfants ne souffrent pas d'une déstructuration parce que leur père serait absent.
En effet, les donneurs et donneuses ont jusqu'à 2 ans pour réclamer une parentalité sur l'enfant. 2 ans, c'est long. Et donc, il faut se protéger avec une convention paraphée et signée par tous et toutes, qui indique clairement les choses de façon hyper claire. Bon, il existe des modèles sur Internet, donc ça c'est chouette. Encore une fois, les associations sont super sur ce point de vue-là, mais c'est des protections qu'il faut quand même avoir quand on choisit ça.
Et alors, en attendant l'égalité, les lesbiennes sont toujours à la merci du sacro-saint corps médical. C'est d'ailleurs une des premières choses que doivent faire les lesbiennes avant la conception, s'entourer d'un personnel médical bienveillant. Et là aussi, sur Internet, il existe des annuaires de médecins ou de gynéco LGBT-friendly.
Et si on doit trouver des trucs positifs, on a parlé aux États-Unis, dans les années 90, de gay baby boom ou de lesbian baby boom. En Angleterre, un quotidien national, le Sunday Express, a titré « Les lesbiennes font de meilleurs parents », en faisant référence aux travaux de la sociologue Gillian Dune sur la meilleure répartition des tâches ménagères, l'éducation plus égalitaire dans les familles de couples lesbiens. Dans l'histoire de la psychologie, on a d'abord considéré que les femmes lesbiennes étaient exclues de la parentalité de fait, comme d'ailleurs les gays, c'est une autre question, qu'elles étaient des outsiders de la maternité. On a même indiquer que la femme invertie et masculine est liée à la stérilité. Aujourd'hui, on considère quand même que les lesbiennes, au contraire, réinventent la parentalité, réinventent l'éducation. Encore une fois, on est né au bon moment, je crois.
Ouais. Et alors, les enfants là-dedans, donc je pense qu'on va se passer des vieilles études pourries de psycho sur l'impact de l'enfant.
Clairement. L'intérêt supérieur.
Ouais. Voilà, il y a un article récent du magazine Tétu qui donne la parole aux enfants de parents lesbiennes autour d'un livre qui s'appelle Gosse d'Homo. Et le constat est sans appel puisque ces enfants disent qu'ils ont été des enfants désirés. C'est vrai que ça n'arrive pas par hasard juste en faisant du sexe. Et d'ailleurs, souvent, les parents expliquent à leurs enfants qu'ils vont devoir s'entraîner à répondre à des questions vraiment débiles sur, par exemple, qui est une vraie maman. Donc, on a cette discussion absurde. Émilie, elle t'a porté dans son ventre ? Non. Donc, c'est pas ta mère. Et ton père ? Quoi, mon père ? Il t'a porté dans son ventre ? Ben non. Donc, c'est pas ton père. Voilà, c'est un peu une démonstration par l'absurde. En tout cas, le magazine explique que c'est une façon de rappeler que les enfants savent très bien d'où ils parlent et qu'ils savent qu'il existe plusieurs modèles familiaux. D'ailleurs, la question qui revient souvent est la suivante. L'orientation sexuelle des parents joue-t-elle un rôle dans celle des enfants? On a envie de répondre que l'écrasante majorité des personnes gays et lesbiennes sont a priori nées de parents hétérosexuels. Et on peut recommander à ce sujet un livre qui parle de la PMA en termes très simples, c'est « Le mystère des graines à bébé » de Serge Tisseron.
Oui, et d'ailleurs, tu parlais des enfants qui trouvent les mots hyper simples. Mon filleul, il a deux mamans. Et à l'école, on lui avait demandé pourquoi il n'avait pas de papa. Et il avait répondu « Bah, moi, j'ai peut-être pas de papa, mais j'ai une Lily. » Lily, c'est le nom de sa deuxième maman.
Oh.
Personne lui a mis ça dans le ciboulot, il a trouvé sa réponse tout seul et puis il est parti grand prince avec sa cape sur son épaule, bref. Alors aussi, on peut citer en France un livre qui est aujourd'hui un petit peu old, mais qui avait l'avantage de parler des mères lesbiennes. C'était le livre de Virginie Descoutures, « Les mères lesbiennes », qui est paru en 2010. Elle avait consacré sa thèse au sujet, mené des entretiens avec de nombreuses femmes lesbiennes pour connaître le quotidien mal connu des familles homoparentales, des familles avec deux parents lesbiens. Et elle avait aussi, surtout, travaillé sur le cadre normatif dans lequel elles s'inscrivaient et comment elles arrivaient à faire leur place dans ce cadre-là. Elle disait justement que ce qui était compliqué, c'était qu'elles vivaient, elles évoluaient dans un cadre hétéronormatif, et ça c'est sûr que la maternité, on fait pas plus hétéronormatif, à savoir le droit, l'entourage familial, les institutions. En effet, selon les configurations, les couples doivent se positionner par rapport aux normes de genre et aux normes en général, déjà dans la justification du désir d'enfant et dans les choix de parentalité. Justement, quand on dit la justification du désir d'enfant, on voit que c'est capital, surtout dans les mots, encore une fois, choisis par les antis. Cette fameuse expression « le droit à l'enfant ». Les antis considèrent que c'est de l'égoïsme, mais c'est une question que beaucoup de femmes lesbiennes se posent, justement. Est-ce que c'est égoïste ou pas? Et justement, elle en parle. Elle dit « La question de la maternité ne va pas de soi chez les couples homosexuels qui ont intériorisé l'attente sociale qui veut qu'un couple homosexuel ne puisse pas avoir d'enfants. » D'ailleurs, c'est une des premières choses quand quelqu'un fait son coming out, enfin, c'était plutôt le cas dans les années 90, mais une des premières réactions des parents, c'était « Je n'aurai pas de petits-enfants. » Et au moment où elle écrit ce livre, en 2010, on est encore là-dedans. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu différent pour les jeunes de 18 ans qui font leur coming out, mais selon l'auteur, si les mères lesbiennes ont pris en compte le modèle dominant, un papa et une maman, elles ne l'ont ni assimilé complètement comme une norme imprescriptible, ni totalement rejetée non plus. Elles se sont juste réappropriées les normes, par là même interrogées l'unicité du modèle dominant, qui se calque sur la nature biologique. Mais si on doit chercher une référence un peu plus récente, on peut parler de l'ethnologue Elisabeth Imas, qui a travaillé sur la maternité partagée chez les couples lesbiens. On voit comment, d'ailleurs, on a changé entre les mères lesbiennes et la maternité partagée. Selon elle, grâce à l'évolution de la famille et de la définition de la famille et le principe que c'est aujourd'hui la vie partagée qui fait famille, on le voit avec la reconnaissance des beaux-parents, les maternités lesbiennes sont de plus en plus comprises par tout un chacun. Et ça, j'avoue que je le vois dans ma vie personnelle. La maternité choisie et de sang apporte de fait les mêmes droits, même s'il faut quand même un peu galérer pour les obtenir, ces droits. Elle dit, dans ces familles, l'amour, détrônant même la génétique ou le sang comme principe de définition du lien de parenté, devient la substance qui nourrit et résume le lien familial, sa métaphore récurrente. Bon, les travaux sur les maternités lesbiennes s'accordent donc pour reconnaître l'insistance de la part des membres du couple à revendiquer l'égalité des deux femmes dans la maternité, qu'elle soit biologique ou sociale, entre guillemets.
Oui, alors quant à la fameuse question de la répartition du travail domestique, là aussi, Virginie Descoutures constate que si les écarts de temps consacrés aux tâches domestiques ou au travail parental sont moins importants, il y a tout de même des inégalités objectives qui sont d'autant plus visibles chez les couples dont le milieu social est le plus éloigné. Et donc, l'inverse est vrai aussi. Donc la mère qui a porté l'enfant reste aussi souvent celle qui gère la charge mentale. Et donc l'idée que les deux femmes sont mères à part égale a déjà été mise en évidence dans des études pionnières sur la lesbomaternité à la fin des années 80 et au début des années 90 aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et donc quelle que soit l'origine ou la façon d'arriver à former ce groupe familial, il s'agit d'une maternité qui veut être partagée de manière égale entre les deux mères, hein, contrairement à d'autres types de couples, indépendamment du rôle que l'une d'elles a pu avoir durant la gestation ou du fait que l'une d'elles a transmis ou non ses gamètes. Le désir d'être mère transcende les moyens par lesquels la maternité peut aboutir et cette exacerbation du désir et en même temps la proclamation de l'égalité face à la maternité apparaît comme un signe d'identité des maternités lesbiennes. Pour cette raison, dans les grossesses par IAD, donc insémination avec donneur, la décision de qui des deux mères mènera à bien la grossesse est d'habitude un élément assez consensuel. Il va répondre la plupart du temps à des facteurs fonctionnels, par exemple la question de l'âge, la question de la santé, ou dans une certaine mesure à des circonstances comme le désir de vivre l'expérience physique de la grossesse, par exemple. Il y a des cas aussi où les couples prévoient des grossesses alternées, et donc toutes ces considérations relatives à la façon de réussir le projet de maternité montre une parentalité réflexive qui demande une suite de décisions qui ne peuvent pas s'appuyer sur aucun modèle émis précédemment. Mais en tout cas, ces femmes nient que l'implication biologique puisse conférer un rôle premier dans la vie des enfants ou bien une plus grande légitimité quand on fait d'être mère. Et donc les deux femmes partageraient dans la même mesure et à part égale le rôle maternel, le soin quotidien, mais aussi les liens affectifs avec les enfants.
Et même si le biologique, en effet, est secondaire dans ces maternités-là, on peut quand même dire qu'il y a des moyens de partager une grossesse. On peut citer deux exemples. Le premier, c'est ROPA. Donc, c'est une méthode d'insémination, une méthode de FIV qui est utilisée de façon relativement rare puisqu'elle est très, très chère. Certains couples ont envie, en fait, de partager une grossesse biologiquement, c'est-à-dire que les gamètes d'un membre du couple forment un embryon qui sera intégré dans l'utérus de l'autre membre du couple. Ce qui permet en gros de faire une sorte de grossesse partagée assez miraculeuse, mais sauf que c'est archi cher, genre ça coûte entre 5 000 et 8 000 euros par tentative de FIV, donc il faut juste être richissime. Et c'est possible qu'en Espagne et aux USA. Mais il y a une autre méthode qui est moins chère, ça s'appelle la lactation induite, donc c'est en gros, t'es deux femmes, tu peux allaiter à deux ton bébé. Et ça suppose par contre un lourd traitement pour celles qui ne donnent pas naissance. Donc en gros, il faut prendre la pilule et il faut aussi prendre un antinoséeux qui, à très haute dose, peut déclencher l'effet indésirable de la lactation. Une fois que tu prends ce truc-là, il faut utiliser des machines, des tireuses de lait pour stimuler en fait tes glandes mammaires. Et au final, ça fait peu de lait. Mais bon, si tu as le désir de faire d'allaiter ton enfant, l'enfant que tu n'as pas porté, et ben c'est quelque chose qui existe c'est aussi une méthode qui est utilisée par exemple pour les mères adoptives ou les mères transgenres qui souhaitent avoir cette expérience d'allaitement même à minima.
Et alors pour parler un peu de la grossesse, il y a un cas particulier qui est celui des butch enceintes ou des personnes non binaires enceintes et enceintes qui est souvent vécu comme une expérience de travestissement puisque la grossesse c'est un retour dans un monde hyper binaire, en tout cas aux yeux des gens. On peut citer le cas de l'autrice américaine A.K. Summers, qui a écrit une BD sur le sujet qui s'appelle Pregnant Butch, Nine Long Months in Drag, et qui raconte comment elle a eu très peur que son expression de genre assez masculine soit diluée dans l'expérience de la grossesse. D'ailleurs, elle se dessine ressemblant au personnage de Tintin. Elle raconte qu'elle a enfin pu porter des bretelles avec son gros ventre et qu'allaitée l'a fait se sentir très forte. Et ça, elle en parle dans la partie butch postpartum.
Si je peux me permettre, ma meuf qui se présente comme une butch, jusqu'à ses 9 mois de grossesse, elle était mégenrée quand même. Donc elle, elle a réussi le truc de ouf de se faire mégenrer jusqu'à la fin.
Parce qu'on pensait que c'était un homme gros.
Ouais.
D'accord. Ok.
Donc elle pouvait être agressive, mais c'était assez chouette à regarder.
On peut aussi regarder sur YouTube un documentaire de Harry Fitz, qui est une femme noire queer qui se définit comme masculine. Elle a filmé une autre YouTubeuse qui s'appelle Frankie Smith dans son court-métrage intitulé « My Mama Wears Timbs », donc « Ma maman porte des Timberland », qui parle de la coexistence de cette masculinité et de la grossesse, parce qu'elle s'est rendue compte en regardant sur Google qu'en fait il n'y avait pas ce genre de représentation et qu'on voyait souvent uniquement des femmes avec des robes à fleurs posant dans la nature d'un air béat, donc rien qui lui ressemblait en fait.
In the jeans that I wore previously. So now I'm wearing like maternity jeans, which are stretchy, almost legging jeans for women. And they show off all my new curves and it's like I have to think about, okay, like I have to like prepare myself to go out into the world as someone that I wouldn't normally portray myself as.
Et donc en fait elle raconte que dans la tête des gens ce qui est masculin n'est pas associé à l'envie de porter un enfant et que donc il y a un certain nombre de regards suspicieux qui se portent sur ses mères. Donc Frankie Smith qui a interviewé explique qu'en étant enceinte, elle a aujourd'hui des courbes qu'elle n'avait pas avant et qu'elle doit s'habituer à montrer au monde cette nouvelle silhouette mais aussi à changer d'habit. Et justement, il y a un autre témoignage dans Mademoiselle qui est celui d'une personne non-binaire enceinte par PMA et en couple avec une femme trans qui témoigne de cette expérience et notamment d'avoir eu la chance de ne pas éprouver, je cite, de dysphorie ou de rejet pour son utérus. Et elle explique que la poitrine qui grossit peut être quelque chose qui est difficile à vivre et qui va rendre le passing impossible, en tout cas pour autre chose qu'une femme dans la société. Il faut savoir qu'il y a aussi des marques américaines qui se sont saisies du problème en proposant des habits de grossesse pour les butch. Donc il y a notamment la marque Butch Baby & Co. qui crée des habits qui sont faits pour être confortables, par exemple des chemises qui ne vont pas trop souligner les seins qui grossissent par exemple.
Ah, c'est passionnant. Et c'est d'autant plus passionnant qu'on peut se rendre compte que entrer en parentalité, c'est un peu mettre un pied dans le temple sacré de l'hétéronormativité.
Bienvenue.
Et du coup, on peut aussi se demander si, quand on choisit d'être parent et qu'on est lesbienne, il n'y a pas inconsciemment le souhait de entrer dans un certain droit chemin, celui des parents, celui des hétéros, les honorary heterosexuals. On peut vraiment se poser la question, surtout que beaucoup de couples lesbiens et gays, et d'ailleurs surtout les gays, racontent que l'homophobie s'atténue quand l'enfant paraît. D'un coup, on devient un peu plus normal, et surtout les hétéros ont l'impression de partager quelque chose avec les personnes lesbiennes ou les personnes gays. Genre, ah mon Dieu, mais en fait, on n'est pas si différent que ça. On a les mêmes centres d'intérêt, à savoir les enfants. Et du coup, la lesbienne devient avant tout parent et plus tellement paria. Après, on peut aussi parler des femmes lesbiennes racisées qui peuvent y voir aussi une forme d'entrée en respectabilité par rapport à leur famille, quelque chose aussi qui peut être en lien avec le mariage. Pour certaines personnes, le mariage, même s'il est rendu obligatoire aujourd'hui pour faire famille, le mariage pour certains peut être un choix qui permet de faire avaler la pilule, en gros, à la famille, à l'entourage, à la société en général. D'ailleurs, on peut en profiter pour rappeler que les familles homoparentales sont une façon de questionner le monopole hétéro de la famille et de la reproduction. Et d'ailleurs, c'est pour ça on a tendance de plus en plus aujourd'hui à se réapproprier le principe de la famille et de la parentalité. Et dans le mot même matergoïnité qu'on a mis en titre de ce podcast, dans le terme même de matergoïnité, ce terme est hérité de la culture transpédéguine, donc une façon de se réapproprier les insultes et surtout de se réapproprier les terrains que se gardent en gros les personnes hétéros. Mais ce qu'il faut dire quand même à ces mêmes personnes, c'est que nous ne sommes pas mères pour rentrer forcément dans le rang. Certaines le font, certaines d'autres, enfin la majorité, ne le font pas. On peut dire aussi qu'on a de la chance, encore une fois, de vivre à une époque où il y a un bouleversement dans les représentations des parents, de la parentalité en général. Aujourd'hui, dans les écoles, il n'y a plus de cadeaux de fête des mères et de fête des pères. Aujourd'hui, les instits, enfin la majorité des instits, préfèrent les termes fête des parents. On peut dire aussi que dans les formulaires, il y a de plus en plus parent 1, parent 2, ce qui est quand même assez soulageant. Enfin, même si je le vis en ce moment, on est quand même souvent amené à rayer la mention père, hein, mais quand même. on peut aussi dire qu'aujourd'hui, même si il faut adopter son enfant plus tard, la naissance d'un enfant permet d'avoir un congé parentalité, par exemple. Donc, un congé paternité ou un congé accueil de l'enfant, peu importe comment on l'appelle. Bref, quand même, il faut dire que certaines choses vont un petit peu mieux qu'avant. Et on peut rappeler aussi que le fait que la parentalité soit un peu le temple de l'hétéronormativité, ça permet aussi autre chose, une sororité, en fait. Entrer en matergouinité, c'est un peu entrer dans une sorte de grosse communauté, on va avoir plein de conseils, tout le monde va vous dire faut appeler tel avocat, se faire passer les noms par exemple, tel gynéco, telle méthode, on va vous dire que il faudra faire attention à bien déclarer l'enfant à la maternité, on va vous donner des lits, des petits hauts, des fringues de grossesse, des conseils, des gros warnings, bref, c'est vraiment un réseau de soutien.
Ouais, c'est super. Et alors, pour faire aussi une petite aparté et rappeler quand même la situation des personnes trans et des hommes trans, en 2008, on se souvient peut-être de ce qu'on avait appelé l'affaire Thomas Beatty qui avait défrayé la chronique aux États-Unis. Thomas Beatty, c'était le premier homme enceint.
The first thing I'd want to say, Thomas, is people, you know, they think they know you. People will have an opinion on you, a judgment of you. But first of all, Thomas, tell me where you're at in your journey and if you're happy with your life.
Oh my goodness, that's a loaded question. I am so happy. I tell her every day that I am the happiest I've ever been in my life. You know, we had to start over and everything, but this is what life's all about. And we are so happy to have this little guy.
Qui a eu ensuite 4 enfants et l'histoire a longtemps été traitée comme un phénomène de foire. Heureusement, il y a quand même d'autres manières d'en parler. D'ailleurs, on peut écouter un épisode qui est consacré à la question dans les pieds sur terre, qui s'appelle « Enceint ». Une anthropologue qui a été interviewée par Libération a expliqué qu'en France, on avait mis de côté la filiation des personnes trans en les excluant de la PMA et de la préservation de la fertilité s'il y avait eu un changement d'état civil. Ça, c'était en tout cas jusqu'en 2017, donc il n'y a vraiment pas longtemps. Alors, on va écouter le témoignage de Lisa et Elsa qui ont créé le compte Instagram Materguinité. Ce sont elles qui ont élaboré ce terme de materguinité qu'on leur a piqué dans cet épisode et on les remercie. Il faut savoir qu'elles ont créé ce compte Instagram d'abord parce que l'une d'entre elles est journaliste et qu'elles ne trouvaient pas d'image pour illustrer un de ses articles. D'abord, elles ont eu l'idée de faire une banque d'images, puis elles ont décidé ensuite de commencer simplement par un compte Instagram avec à la fois des photos et des citations. On les écoute.
En général, on associe beaucoup la maternité à la féminité, la maternité à l'hétérosexualité. Et moi, forcément, c'est des images dans lesquelles je me retrouve pas du tout. Et donc, j'ai eu du mal à me projeter, moi, en tant que mère. Et une fois que j'étais mère, du coup, à trouver un petit peu de la légitimité, de se sentir un peu crédible dans cette nouvelle identité. Et donc, l'idée un petit peu de ce projet, c'était de trouver des mères qui me ressemblent, des mères qui ressemblent à mes potes, parce que j'imagine que voilà, elles existent et qu'elles sont là quelque part.
C'est aussi l'occasion de faire connaître un peu la culture lesbienne, parce que les lesbiennes le savent bien, dès qu'on a envie d'avoir un petit peu accès à l'histoire et la culture lesbienne, c'est tout de suite très compliqué. Sur les moteurs de recherche, il y a tout le temps du porno qui ressort, et puis d'une manière générale, c'est une histoire qui est invisibilisée, donc à notre échelle, on a envie de faire connaître des lesbiennes assez variées, des autrices comme Maggie Nelson ou Dorothy Allison, Adrienne Rich pour les Américaines, ou sinon des figures aussi françaises comme Émilie Jouvet. Et puis on a une super photo d'une politique autrichienne verte qui s'appelle Faïka El-Nagashi. Donc voilà, on essaye d'un petit peu raconter aussi l'histoire des lesbiennes via des posts Insta. Ça nous paraissait important de montrer différents type de mère, parce qu'en fait, quand les mères lesbiennes sont représentées, parce qu'elles le sont quand même, on a l'impression qu'il y a à chaque fois un seul type de famille qu'il est. Ça va être des femmes en couple qui ont fait une PMA, de classe moyenne, blanche, et qui sont pas très butch. Et c'est un peu ce que dit la sociologue Sylvie Tissot dans un post qu'on a partagé, qui nous paraît bien. Elle dit, pour être acceptée complètement, les mères lesbiennes doivent abandonner ou mettre à distance les signes associés à une homosexualité non respectable et donner des gages de l'appartenance aux classes supérieures blanches. Et d'ailleurs, dans son livre, elle cite une personne qu'elle a interviewée et qui dit qu'elles sont vues comme complètement inoffensives par les autres parents d'élèves. Et elle dit, bah, si on était très butch et que j'étais menuisière, si on parlait du patriarcat qu'il fallait renverser, là, ça passerait sûrement plus mal.
On reçoit pas mal de retours qui sont hyper positifs, donc ça fait plaisir, c'est sûr. Par contre, on reçoit pas énormément de photos. Donc si jamais il y a des mères Gwyn qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous envoyer des photos et on sera ravis du coup de pouvoir les poster.
Oui, alors contactez-les.
Ouais, et merci, hein. C'est vraiment chouette d'avoir accès à ces photos.
Alors, on va parler un petit peu de notre expérience. C'est le moment où tu vas nous raconter ce qui t'arrive.
Du coup, voilà, je suis maman d'une petite Suzanne depuis 3 semaines au moment où on enregistre. Et c'est vrai que c'est quand même trop la teuf. Et je dois dire que ce qui était d'autant plus réjouissant, c'est qu'on est vraiment entré avec ma compagne dans cette aventure avec énormément de confiance. De confiance pour notre entourage, de confiance même vis-à-vis de la société. Comme elle dit, on ne laisse aucune place à qui que ce soit de remettre en question notre famille. Et même dans notre façon de se pointer à la pharmacie, dans notre façon de faire les courses, les gens n'ont même pas 2 secondes de possibilité de faire une remarque ou d'avoir un regard un peu apitoyé. Et on a eu, pour l'instant, affaire à aucune violence, à aucun problème. Les gens peuvent s'avérer, en effet, poser beaucoup de questions, mais on a tendance à prendre ça comme quelque chose de sympathique, en fait. On voit pas ça comme quelque chose d'intrusif. En effet, faire des enfants quand on est 2 lesbiennes, ce n'est pas la norme, et encore heureux. Et donc, c'est chouette de pouvoir répondre à toutes les questions. Enfin, c'est comme ça qu'on s'est donné notre petite mission. Et puis surtout, ça a été l'occasion de voir à quel point on est un réseau soudé, à quel point on n'est jamais toute seule quand on fait des enfants, et à quel point aussi il y a des soignants qui sont géniaux, en fait. Notre gynécologue est extraordinaire, elle accompagne beaucoup de couples lesbiens, et elle fait son boulot en toute conscience, elle n'a pas l'impression d'être une héroïne, juste de faire son travail. Et puis, à la maternité, on veut vraiment donner un mot pour les sages-femmes, qui c'est quand même une profession extraordinaire, une profession de femmes qui travaillent pour les femmes, qui sont traitées donc comme de la merde. Et on l'a vu après le Ségur de la Santé, elles ont été exclues de toutes les dispositions, parce que pas personnel paramédical, pas personnel médical, enfin bref, c'est un scandale. Donc vraiment, on est toutes contentes. Et puis, la petite personne, on se dit qu'elle aura une place de choix à se faire dans ce petit monde et que a priori ça va plutôt bien se passer. Donc voilà, c'est un peu mon expérience, elle est très personnelle parce que d'autres personnes vivent des choses de façon plus grave. Mais voilà, c'est mon expérience.
Ça a l'air trop bien. Enfin, sauf d'être sage-femme. D'ailleurs, elles ont manifesté récemment, donc soutenez-les. Moi, de mon côté, j'ai pas du tout d'expérience en la matière. Mais en tout cas, je suis contente de voir que t'as pas lâché ta meuf pour retourner au bureau comme beaucoup de mecs.
Mais je me demande comment elles font, en fait. Comment elles font si leur mec se barre direct.
Mais elles font pas, en fait. C'est le problème.
Ouais.
C'est le problème du postpartum, en fait. C'est pas juste les déchirures, quoi. C'est les conjoints, en fait. Enfin, c'est mon analyse.
Ouais,
en tout cas, voilà, je pense que les couples hétéros devraient aussi regarder ce qui se passe ailleurs et prendre bonne note. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai l'impression que ça se normalise, simplement parce que sur Instagram, je vois beaucoup de parents queer et que ça a l'air d'être tout à fait normal. Même si, évidemment, il doit y avoir des résistances qui me sont invisibles. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt encourageant. Et alors, est-ce qu'on a des ressources à recommander ?
On a déjà parlé du compte Insta Matergounité. On peut dire aussi qu'il y a le compte Twitter Demande à tes mères, qui sont aussi sur Insta. Donc, c'est deux mères qui sont super, qui racontent leur expérience et surtout qui donnent des conseils sur comment adopter son propre enfant. Et donc, elles sont super chouettes. On a déjà parlé de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel et aussi de la PGL. Donc, c'est des associations super de personnes concernées. L'adhésion n'est pas très chère et surtout, c'est des réseaux très importants puisque c'est les bonnes adresses, les bons conseils, les bonnes listes de pièces dans les dossiers. Ouais, c'est important. On peut citer les documentaires de Émilie Jouvet, donc Mon enfant, ma bataille, ça, on en a déjà parlé, mais aussi Aria, donc c'est l'histoire de son parcours de PMA en Belgique pour faire sa fille qui s'appelle Aria. On peut parler du podcast Maman Aiguine, qui est un documentaire de Déborah Fabré qu'on peut trouver sur la RTS. J'en ai déjà parlé, mais évidemment le livre de Maëlle Lecor, PMA pour les nuls. C'est simple, c'est précis, c'est efficace, il y a tout, donc c'est nickel. Évidemment, autopromo, la deuxième saison de Queer de Rosane Le Carboulec, qui est, voilà, tous ces récits de lesbiennes sont importants à entendre. Et puis, le site Mombian, ça c'est toi qui pourrais en parler le mieux, je pense.
Oui, c'est un site anglais qui est dédié donc à ces questions-là, avec plein de récits, plein d'infos.
Le moment
pop culture.
Pop culture.
Et du coup, dans la pop culture, toi, tu as des exemples de matergouinité en tête ?
Oui, bah évidemment, il y a davantage d'exemples dans les pays où c'est légal depuis plus longtemps, c'est normal. L'exemple canonique, c'est le couple formé par Carole et Suzanne dans la série Friends. Donc, l'horreur, toutes les blagues qu'on entend sur Ross, ta femme t'a quitté pour une autre femme. Ouais. Il faut aussi attendre quand même 7 saisons pour les voir s'embrasser. Et à l'époque, certaines chaînes américaines avaient censuré la scène de leur mariage qui se trouve dans la saison 2.
Ouais, et puis Suzanne est traitée comme un gros pal, tu sais, comme un gros pote qui boit des bières, quoi.
Oh.
Ouais. Where's everybody?
Oh. It's already closed. Chris gave me the keys to lock up. What is wrong?
My marriage, I think my marriage is, it's kind of over.
Oh, no. Why?
Because Carol's a lesbian.
Il y a aussi la super série The Wire qui est sortie pourtant au début des années 2000, mais qui avait un super personnage de lesbienne, le personnage de Kima, qui devient maman d'un petit garçon. Et cette série... Franchement, cette info est traitée de façon tout à fait normale. C'est pas un pataquès, c'est juste un personnage qui a un enfant avec une femme, et puis voilà quoi. Pour continuer dans les séries américaines, il y a Grey's Anatomy, Cali et Arizona. J'avoue, je suis pas très familière comme certaines de cette série, mais je connais bien le personnage de Cali, puisque c'est un personnage de personne bi qui est assez rare dans les séries. Elles élèvent ensemble une fille portée par Cali. Bon, par contre, ils ont rajouté un bon gros drama dans l'histoire de la naissance, mais pour une fois, on n'a pas tué la lesbienne, et ça, c'est déjà pas mal.
Incroyable. Alors évidemment, il faut rappeler The L Word, dans lequel le couple formé par Beth et Tina avait recours à un donneur racisé. Alors il y avait tout un tas d'histoires le long de la route, une fausse couche, des tromperies, le couple qui se sépare. Mais même si Beth n'a pas de lien biologique avec l'enfant, elle est quand même considérée comme la parente de l'enfant.
Angie, you cannot smoke pot.
It's not illegal.
Yes, it is. You are 16 years old.
I want to live with Mama T.
Et dans la nouvelle mouture de The L Word Generation Q, le personnage d'Alice se trouve, elle, engluée dans une relation en polyamour avec une mère de famille et son ex, qui est mère de 2 enfants. Donc elle doit gérer le drama Gwyn, en plus de sa position de belle-mère. Voilà, c'est chaud.
On en avait parlé dans un cours, mais il y a aussi Sex Education, donc la série anglaise. Et les parents de Jackson, qui est un peu l'équivalent du quarterback beau gosse du lycée, il s'avère qu'il a 2 mères Gwyn. C'est un couple mixte et on voit donc qu'elles doivent lutter avec une injonction à la perfection. Je trouve que c'est vachement bien traité, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment peur qu'on leur reproche le fait d'être lesbiennes un jour. Donc elles se mettent énormément de pression et du coup elles en mettent aussi à leur gamin.
Do you think I like getting up at 4:30 every morning like I have got nothing better to do with my time?
What did you say? It's all about you, isn't it, Mum?
Let's go to bed. We can talk about this in the morning.
Fine.
No, seriously. You think we like driving 5 hours every Saturday to get you to your swim meets, dedicating our entire lives to your success?
It's not my success, though, is it, Mum? It's yours.
Jackson! You get back here now! Get back here!
Il y a aussi le film The Kids Are Alright avec Julianne Moore et Annette Bening. Donc l'histoire, c'est les enfants de 2 meufs qui... veulent retrouver leur donneur, le donneur de sperme qui leur a donné naissance, et le donneur veut exercer ses droits parentaux, C'est un des films qui a le mieux marché aux US en 2010. Bon, c'est adapté d'une histoire vraie, hein. Mais j'avoue qu'il y en a un petit peu marre des films où le mec reste un peu quand même le nœud de l'intrigue, hein. Il faudrait quand même pas qu'on exclue les hommes dans les histoires de femmes. Donc, il reste dans le nœud de l'intrigue, que ce soit pour réclamer des droits ou parce que une lesbienne doit coucher avec un mec pour faire un enfant. C'est F 10% avec le gros drama avec Andrea, qui doit coucher avec un mec à un moment ou à un autre. Alors que ça aurait été facile de la faire aller en Belgique entre deux tournages. Enfin, bref, ça c'est mon avis personnel.
Oui, il y a aussi de très beaux films Carole de Todd Haynes, qui est un bon exemple de la vulnérabilité, de la fragilité des mères lesbiennes lorsqu'elles étaient auparavant en couple avec un homme. Donc là, ça se passe dans les années 50, et donc on voit que c'est très difficile face à la loi. Et en ce moment, la très belle série Master of None est sa troisième saison, même si son créateur Aziz Ansari reste cancel des problématiques malgré ses apparitions dans la série. En tout cas, maintenant, elle se focalise sur le couple formé par Lena Waithe, qui est donc scénariste, comédienne et productrice, et par sa compagne, qui trouve un donneur parmi leurs amis et qui essaie d'avoir un enfant, et on voit le coût de tout ça sur leur couple. Voilà, je vous en dis pas plus, mais regardez la troisième saison qui ressemble à du cinéma d'auteur.
Okay. OK. Hypothetical for you.
OK.
Let's say
yeah.
We're at a party.
Mm-hmm.
Maxwell's playing.
Love him.
You don't know me. I don't know you. And I ask you on a date.
Même si c'est pas trop pop culture, on peut quand même rappeler qu'il existe aujourd'hui de nombreux livres pour les enfants, pour qu'ils apprennent à parler des familles homoparentales, qu'ils soient concernés ou non d'ailleurs, ce serait bien que ce soit dans toutes les bibliothèques, et aussi des mères lesbiennes. On peut citer par exemple « Mes deux mamans » de Bernadette Green et Anna Zobel aux éditions Talent Haut, ou de « Jean à deux mamans » de Ophélie Texier à l'École des loisirs, ou bien les livres de Muriel Douru, dont « 10 mamans » édition KTM. Et si on aime lire en anglais pour faire vraiment... genre éducation en anglais sur les familles homoparentales, et ben on peut choisir Ever Has Two Mommies de Leslie Newman, qui est un peu le grand classique des livres pour enfants sur les familles homoparentales.
Qu'est-ce que tu kiffes?
Qu'est-ce que t'écoutes?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis?
Les recommandations culturelles.
De quoi de neuf?
Alors qu'est-ce que tu as lu cette semaine?
Eh bien j'ai lu une merveille, je n'ai pas d'autre mot. Un bref instant de splendeur du poète Ocean Vuong. J'espère que ça se prononce comme ça, chez Gallimard. Donc c'est la lettre d'un fils à sa mère sur l'héritage du traumatisme du Vietnam. L'auteur est américain et issu de l'immigration vietnamienne. Il raconte comment il s'est construit avec des trous dans son histoire, comment il a grandi avec une mère aussi adorée que violente et une grand-mère très tendre qui a essayé de lui transmettre des choses. Le personnage est homosexuel et donc doit faire son propre chemin là-dedans aussi sur la représentation du corps de l'homme gay asiatique aux États-Unis. C'est une position difficile à avoir. Vraiment une merveille poétique. C'est vraiment des phrases splendides qu'on a envie de garder pour toujours dans notre cœur. C'est un roman très très fort. Et voilà, j'ai aussi pensé à une ancienne camarade de classe et à donc de nombreux compatriotes qui sont issus du Laos ou des anciennes colonies et qui se reconnaîtront peut-être dans ces lignes d'être par exemple le traducteur ou la traductrice de ses parents dans une France qui a oublié ces personnes-là, les boat people. Et toi, t'as regardé quoi alors?
Alors moi, j'ai regardé Mare of Easttown, qui est diffusée sur OCS. C'est la série d'un sombre inconnu appelé Brad Inglesby. En tout cas, on y suit Kate Winslet, qui joue une enquêtrice assez revêche d'une petite ville sinistrée de Pennsylvanie où tout le monde se connaît, et qui va se pencher sur la mort et la disparition de plusieurs jeunes filles. Donc c'est un polar bien crapoteux, hyper jouissif, qui vient de se terminer. Donc,
et puis Kate Winslet.
Rattrapez-lui.
Kate Winslet.
Eh ben ouais, forever.
The Easttown Police Department received a call reporting a dead body in Creedham Creek.
We've decided to bring in a county detective to assist with the case.
How do you like working with my mom so far?
We're just getting started out. Any tips?
Lower your expectations.
Allô,
allô,
allô, monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute?
Alors cette semaine, on a une question d'auditrice qui nous a contacté sur Instagram en nous disant « Ma belle-mère relook ma fille de 15 mois avec des jupes roses. Que faire, Anne-Laure ? Est-ce que tu peux lui répondre ?»
Alors bah déjà, je compatis, ça doit être atroce. J'ai envie de dire que les anciens, mais aussi certaines personnes de notre génération, hein, restent quand même particulièrement binaires dans les équipements et les vêtements des enfants, et donc restent encore bleus pour les garçons, roses pour les filles. Après, concernant cette fameuse belle-mère, si elle relouque votre enfant, je pense qu'il y a d'abord un gros problème de positionnement, puisque bah, la belle-mère n'est pas censée looker son petit-enfant. Il faut peut-être mieux en parler à votre compagnon ou à votre compagne pour que cette femme retrouve bah, sa place de grand-mère et respecte qui vous êtes, qui peut être potentiellement l'enfant. Et je pense que c'est possible de le faire sans entrer dans l'art de cette belle-mère. Il s'agit juste de parler de vos goûts, de parler éventuellement aussi de ce que c'est que l'éducation non genrée, si vous avez choisi d'élever votre enfant comme ça. En tout cas, je pense qu'on peut compter sur le fait que les vieux peuvent changer, que les personnes peuvent changer aussi. Et donc, présentez-lui pas la dernière robe rose avec un des gros coups de ciseaux dedans. Soyez peut-être un petit peu plus... mesurer.
Oui, et penser que le beau-père, lui, ne s'en est même pas mêlé. Donc,
Ah bah non, je crois qu'il sait même pas ce que c'est qu'un cadeau de naissance.
Donc voilà. Bon bah, je pense qu'on a fait le tour de la question. Écrivez-nous pour nous parler de maternité. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux @quadmeuf. Et vous trouverez aussi toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Et vous pouvez nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide à être référencés. Sachez également que le 15 juin, je retrouverai l'autrice Judith Duportail qui a écrit le livre Dating Fatigue pour une masterclass sur Zoom et vous pourrez vous inscrire en ligne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court où l'on parlera du triplement oscarisé Nomadland qui sort au cinéma. Quoi de neuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Rédaction en chef Clémentine Gallo.
Journaliste chroniqueuse Anne-Laure Pinault.
Mixage Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, réalisation, montage et coordination Ashley Tolar.